Thomas Hardy. Le maire de Casterbridge. Chapitre 21. Comme un proverbe annoncé depuis l'enfance reste pratiquement lettre morte jusqu'au jour où une expérience assagie en démontre la vérité, la maison de la place haute dont elle avait entendu prononcer le nom en maintes circonstances prenait pour la première fois aux yeux d'Élisabeth une existence réelle. Elle ne sut le reste de la journée songer qu'à l'étrangère, à sa demeure et aux chances qu'elle pouvait avoir d'y vivre elle-même. L'après-midi, sortant en ville pour payer quelques notes et faire des emplettes, elle s'aperçut que ce qui était pour elle une récente découverte faisait déjà l'objet des conversations de la ville. On réparait la maison de la place haute, où une dame allait venir habiter. Tous les boutiquiers connaissaient ces détails et supputaient la chance de compter l'étrangère au nombre de leurs clientes. Élisabeth put ajouter la touche finale à des bavardages dont elle était si parfaitement ignorante, d'ailleurs, en racontant que la dame était arrivée le jour même. Les réverbères allumés, avant que la nuit fût trop sombre pour noyer cheminées, mansardes et pignons, Élisabeth se dit, avec une émotion d'amoureuse, qu'elle aimerait voir la silhouette de la maison de la place haute et remonta la rue dans cette direction. La vieille demeure était, avec sa façade et ses balustres grisâtres, la seule maison de son espèce située si près du centre de la ville. Elle avait un aspect de manoir de campagne, avec des nids d'oiseaux dans les cheminées, des trous humides où poussaient les champignons, et des irrégularités de surface dues à la truelle de la nature. La nuit, les réverbères projetaient en ombre grisâtre sur les murs pâles les silhouettes des passants. Ce soir-là, les brins de paille semés tout alentour, et d'autres signes encore, trahissaient le désordre qui accompagne l'arrivée d'un nouvel habitant. Tout en pierre, la bâtisse présentait, sous des dimensions réduites, un air de parfaite dignité. Elle n'était point aristocratique et dominatrice moins encore, ce qui n'empêchait pas l'étranger attaché aux traditions de dire en passant devant elle « c'est le sang qui l'a bâti et la fortune qui l'habite », malgré la notion très vague qu'il pouvait avoir de telles abstractions. En ce qui concerne les hôtes de la maison, l'étranger se serait pourtant trompé, car avant l'arrivée de la dame nouvelle, la vieille bâtisse était restée 1 ou 2 ans vide, après avoir abrité des hôtes intermittents. La raison d'une telle défaveur était assez manifeste. Les chambres dominaient le marché, dont la perspective ne paraissait guère souhaitable, ou même tolérable, aux locataires possibles d'une habitation semblable. Les yeux d'Élisabeth, se portant vers les étages supérieurs, y virent de la lumière. La dame était certainement arrivée. Si profonde était l'impression produite sur l'esprit de la studieuse fille par le charme de l'étrangère, qu'elle éprouvait une joie à rester sous une porte, en face de cette maison, à songer que sa séduisante amie se trouvait derrière ses murs et à supputer ce qu'elle pouvait faire. Son admiration pour l'architecture de la façade s'adressait seulement, en réalité, à la nouvelle venue qu'elle abritait. Ce qui ne veut pas dire que cette architecture ne méritât pour son propre compte admiration ou du moins étude. Elle datait du XVIe siècle et, comme toutes les constructions postérieures à l'époque gothique, représentait une compilation plutôt qu'un plan unique. Mais sa sobriété la rendait imposante. Elle était riche, sans excès. Une opportune notion de la vanité ultime de l'architecture, comme de toute autre chose humaine, lui avait épargné une ornementation excessive. Des déménageurs qui entraient et sortaient avec caisses et paquets faisaient de la porte et du vestibule un véritable passage public. Élisabeth profita de la pénombre pour entrer par la porte ouverte, mais, effrayée de sa témérité, elle s'enfuit bien vite par une autre baie percée dans le haut mur de la cour de derrière. Elle fut surprise de se trouver dans une des ruelles désertes de la ville. Elle leva les yeux sur la porte qui lui avait donné issue et vit, à la lueur d'une lampe solitaire placée dans l'allée, que c'était une vieille baie voûtée, plus ancienne encore que la maison. Le ventail en était garni de clous et la clé de voûte représentait un masque. Ce masque avait été primitivement sculpté en figure grimaçante, ainsi que l'on pouvait encore s'en apercevoir confusément. Mais des générations de gamins l'avaient accablé de pierres, en visant sa bouche ouverte, et les coups avaient effrité les lèvres et les mâchoires, qui paraissaient rongées par la maladie. Il en résultait, à la lueur tremblotante de la lampe, un effet si lugubre que la jeune fille ne put en supporter la vue et détourna les yeux du premier objet déplaisant qu'elle eut rencontré au cours de sa visite. La disposition singulière de cette vieille porte et la présence du masque grimaçant suggéraient dans l'histoire de cette demeure un trait dominant, l'intrigue. L'allée permettait d'y accéder sans être vue de tous les coins de la ville. Elle menait au vieux théâtre, à l'ancienne borne aux bœufs, à l'arène des combats de coqs, à la mare où disparaissaient les enfants sans nom. La maison de la place haute pouvait évidemment se vanter de bien des commodités. Élisabeth tourna le dos à la maison pour remonter l'allée et retourner tout droit chez elle, mais elle entendit un pas qui s'approchait, et peu soucieuse d'être vue en cet endroit à pareille heure, elle battit vivement en retraite. Ne trouvant pas d'issue, elle se cacha derrière un contrefort de briques pour attendre que le passant eût disparu. Si elle avait regardé l'homme, elle aurait éprouvé une surprise. Elle l'aurait vu se diriger tout droit vers la porte voûtée, poser la main sur le loquet, et la lumière du réverbère tombant sur son visage lui aurait fait reconnaître Henchard. Mais elle se cachait si bien dans son abri qu'elle ne s'aperçut de rien. Entrée dans la maison, Henchard resta aussi inconscient de la présence d'Élisabeth qu'elle l'était de son identité. Il disparut dans l'ombre, tandis qu'Élisabeth, reprenant une seconde fois l'allée déserte, se hâtait vers sa maison. Les reproches d'Henchard, en inspirant à la jeune fille la terreur nerveuse de tout geste qui pût être considéré comme indigne d'une dame, avaient donc eu le résultat inattendu d'empêcher ces deux êtres de se reconnaître en un moment critique. Une rencontre put comporter de grosses conséquences. Chacun d'eux se fût demandé tout au moins ce que l'autre pouvait bien venir faire en cet endroit. Quel que fût le motif qui l'avait attiré dans la maison de la place haute, Henchard rentra chez lui quelques minutes à peine derrière Élisabeth. La jeune fille méditait d'aborder dès ce soir la question de son départ. Les événements de la journée motivaient une telle résolution. Mais l'exécution de son projet dépendait de l'humeur d'Henchard, et elle attendait avec anxiété de voir son attitude. Elle s'aperçut que ses façons avaient changé. La tendance à la colère avait fait place chez lui à une disposition plus fâcheuse encore. Une indifférence totale avait succédé à son irritabilité, et telle était sa froideur qu'Élisabeth s'en sentit mieux encouragée au départ que par les manifestations de la plus violente colère. « Auriez-vous quelque objection à me voir partir, père ? » demanda-t-elle. « Partir ? Non, pas du tout. Où veux-tu aller ?» Elle jugeait inutile et superflu de révéler pour l'instant à un homme qui s'intéressait si peu à elle le lieu de sa retraite. Il la connaîtrait toujours assez tôt. « Il se présente pour moi une occasion de me dégrossir, d'acquérir quelque instruction et d'être moins oisive, » répondit-elle avec hésitation. « C'est une place où je trouverai à étudier et avoir une vie élégante. »«
Alors profites-en au nom du ciel, puisque tu ne peux pas t'instruire où tu te trouves. »
« Vous ne faites pas d'objection à mon projet ?»«
D'objection, moi ? Oh non, pas du tout !»
Puis, après un silence,
« Mais tu n'auras pas assez d'argent dans cette jolie place si je ne t'aide pas un peu. Si tu veux, je te servirai une petite pension pour que tu ne dépendes pas des salaires de famine que tes gens distingués vont sans doute t'offrir. »
Élisabeth le remercia de cette offre. « Mieux vaut faire les choses en règle, » reprit-il, après un instant de réflexion. « Je voudrais te constituer une petite dotation pour que tu puisses être indépendante de moi, et moi de toi. Cela te convient-il ? »
« Certainement. »
« Alors je vais m'en occuper aujourd'hui même. » Il paraissait satisfait d'un arrangement qui le débarrassait de la jeune fille, et l'affaire fut conclue en ce qui les concernait. Il ne restait plus à Élisabeth qu'à revoir la dame. Le jour et l'heure du rendez-vous arrivèrent, mais il tombait une petite pluie fine. Élisabeth Jane, qui était sortie d'une sphère de joyeuse indépendance pour adopter une existence laborieuse, jugea un temps semblable assez bon pour une gloire aussi déchue que la sienne, à supposer, ce qui était douteux, que son amie consentit à l'affronter. Elle alla chercher dans l'arrière-cuisine les socs restés pendus depuis son apothéose, les décrocha, fit cirer leurs semelles moisies et les mit à ses pieds comme aux anciens jours. Ainsi chaussée et nantie d'un parapluie et d'un manteau, elle gagna le lieu du rendez-vous avec l'intention, si la dame ne s'y trouvait pas, d'aller la voir chez elle. Le côté du cimetière opposé au vent de pluie était abrité par un vieux toit de terre et de chaume au bord saillant d'un ou deux pieds. Derrière le mur se trouvait une cour de ferme, avec ses greniers et ses granges, la cour même où Élisabeth avait rencontré Farfrae quelques mois auparavant. Sous le toit se dressait une silhouette immobile, la jeune femme était venue. Cette présence animait d'une telle vie les plus fervents espoirs de la jeune fille qu'elle eut presque peur de son heureuse fortune. Les folles imaginations peuvent naître dans les esprits les plus fermes. Dans ce cimetière, vieux comme la civilisation, par ce temps atroce, était venue cette étrangère à la singulière puissance de fascination, et que l'on n'avait jamais vue nulle part. Sa présence n'allait peut-être point sans quelque diablerie. Mais Élisabeth ne s'en dirigea pas moins vers la tour de l'église, au sommet de laquelle la corde d'un drapeau claquait au vent, et gagna le mur du cimetière. La dame avait sous la bruine une mine si avenante qu'Élisabeth oublia ses folies. « Eh bien !» fit l'étrangère, dont les paroles laissèrent voir, sous le voile qui lui protégeait le visage, un peu de la blancheur des dents. « Eh bien, êtes-vous décidée ?»«
Oui, tout à fait, » répondit vivement la jeune fille.
« Votre père consent ?»«
Oui. » »«
Venez donc, alors. » »«
Quand cela ?»«
Maintenant, dès que vous voudrez. J'avais bien envie de vous faire dire de passer chez moi, craignant que vous ne vous aventuriez pas ici par un temps pareil. Mais comme j'aime sortir moi-même, je me suis dit que j'allais d'abord venir voir. »
« C'est ce que je me suis dit aussi.
Cela prouve que nous nous entendrons. Alors, pouvez-vous venir aujourd'hui ? Ma maison est si vide et si lugubre que je veux y sentir un être vivant. »
« Je crois que je le pourrais, » fit la jeune fille, en réfléchissant.
À ce moment, une rafale de vent et de pluie apporta le son de paroles prononcées de l'autre côté du mur. On entendait passer des mots sans suite. « Sac, quinteau, battage, mouture, marché de samedi prochain. » Et les phrases étaient déformées par les bouffées de vent, comme un visage par un miroir brisé. Les deux femmes tendaient l'oreille.
« Qui est-ce donc ? » demanda l'étrangère.
« L'un des deux est mon père. Il loue cette cour et cette grange. » L'intérêt que la dame semblait prendre aux détails du commerce du blé parut lui faire oublier leur affaire. Elle demanda tout à coup à la jeune fille.
« Vous lui avez dit où vous alliez ?»«
Non. »«
Oh, comment cela se fait-il ? »
J'ai jugé plus sage de partir d'abord. Mon père a des sautes d'humeur si brusques.
Vous avez peut-être raison. D'ailleurs, je ne vous ai pas encore dit mon nom.
Je m'appelle Miss Templeman.
Sont-ils partis de l'autre côté ?
Non, ils sont montés dans le grenier.
Eh bien, il commence à faire humide ici. Je vous attendrai aujourd'hui, ce soir, à 6 heures, voulez-vous ?
Par où faudra-t-il venir, madame ?
Par la porte du devant. Il n'y a pas d'autre accès.
Elizabeth Jane songeait à la porte de la ruelle. « Peut-être feriez-vous bien, puisque vous n'avez pas dit votre adresse, de n'en parler qu'après votre départ. Qui sait si votre père ne changerait pas d'idée ?»
Elizabeth secoua tristement la tête. « À vrai dire, je ne le crains guère, soupira-t-elle. Il est devenu si froid pour moi. »
« Très bien. À 6 heures, alors. »
Une fois sorties sur la route où elles se quittèrent, les deux femmes eurent assez à faire à tenir leur parapluie incliné contre le vent. Cependant, l'étrangère jeta, en passant devant la porte, un coup d'œil sur la cour de ferme et s'arrêta un instant. Mais on n'y voyait rien que les meules, la grange au toit bossu et garni de mousse et le grenier adossé à la tour de l'église où continuait à claquer la corde du drapeau. Henchard ne se doutait guère que le départ de la jeune fille dût être si prochain. Aussi fut-il fort surpris, lorsqu'il rentra chez lui, un peu avant 6 heures, de voir devant la porte Élisabeth montait avec ses caisses et ses sacs dans une voiture des armes royales.
« Mais vous m'aviez dit que je pouvais partir, père, » expliqua-t-elle par la portière de la voiture.
« Je l'ai dit, oui, mais je croyais que tu partais le mois prochain ou l'année prochaine. Le diable m'emporte, tu sais saisir l'occasion aux cheveux. Alors voilà comment tu me remercies de toute la peine que j'ai prise pour toi. »
« Oh, père, comment pouvez-vous dire cela ? C'est injuste !» s'écria-t-elle avec feu.
« Allons, allons, à ta guise, » répondit-il.
Il entra dans la maison, et voyant que tous les bagages n'étaient pas descendus, il monta dans la chambre de la jeune fille pour en surveiller l'enlèvement. Il n'avait jamais pénétré dans cette chambre depuis qu'Élisabeth l'occupait. On y voyait partout des marques de son travail, de son effort de culture, sous forme de livres, de croquis, de cartes, de recherches, de petits effets pleins de goût. Henchard ne s'était jamais douté de tout cela. Il regarda autour de lui, puis se tourna brusquement et redescendit à la porte. « Écoute, » fit-il d'une voix altérée. Il n'appelait plus jamais la jeune fille par son nom. « Ne t'en va pas. Il se peut que je t'ai parlé durement, mais j'ai une excuse, quelque chose qui m'a fait une peine terrible à ton sujet. »«
À mon sujet ? » s'écria-t-elle, avec une émotion profonde. « Qu'ai-je donc fait ? » ?»« Je ne puis te le dire aujourd'hui, mais si tu veux rester près de moi et continuer à vivre comme ma fille, je te le dirai un jour. » Mais cette proposition arrivait 10 minutes trop tard. Déjà montée en voiture, Élisabeth se trouvait par anticipation dans la maison de l'étrangère, dont les manières la charmaient tant. « Père, » fit-elle, aussi posément qu'elle le put, « je crois préférable de m'en aller pour le moment. Peut-être ne resterai-je pas longtemps absente, je ne serai pas loin, et si vous voulez vraiment me revoir, je reviendrai bien vite. » Il fit un signe de tête imperceptible, comme pour approuver ses paroles, et ce fut tout. « Tu ne vas pas loin, dis-tu ? Quelle sera donc ton adresse au cas où je voudrais t'écrire, à moins que je ne doive pas la connaître ? Oh, si, bien sûr. C'est dans la ville, à la maison de la place haute. » « Où cela ? » demanda Henchard, le visage soudain figé. Elle redit le nom de la maison. Henchard restait silencieux, sans un geste. Élisabeth lui fit un signe amical de la main et cria au cocher de remonter la rue.